Bonjour à tous, c'est toujours le direct qui se poursuit sur l'antenne de Graphite. J'ose espérer que cette rentrée ne va pas être à l'image de cette année radio, parce qu'on est arrivé quand même dans les studios, Carole, à 11h54. Je crois que nous ne sommes jamais arrivés aussi tard pour prendre une émission à 12h03. C'est fort dommage. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël.
Ah, quel plaisir de te retrouver enfin à l'antenne de Graphite pour cette émission Biotine. Merci de m'avoir accompagné sur cette course frénétique. Alors, Graphite, c'était évidemment une radio curieuse qui vous permet d'écouter pas mal de musique, pas mal d'émissions géniales, dont celle d'Enrique, de science. Mais c'est aussi bison futé, hein, parce que l'autoroute A1 était quand même légèrement encombrée depuis Paris. Et alors, Compiègne, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je crois que c'est le forum des associations qui fait que c'est totalement impossible de se garer. D'où le fait qu'on arrive quand même assez en retard. Mais j'espère que c'était qu'aujourd'hui, que le reste de cette année, ça sera quand même un peu plus souple, un peu plus cool. Je suis très heureux de vous retrouver. Je m'appelle Jean-Noël. Je suis très heureux d'avoir trouvé ma voix aussi, parce qu'on se souvient que l'année dernière, c'était un peu compliqué. J'espère que ça va bien durer. Mais comme j'ai parfois un peu tendance à avoir quelques craintes, je me suis dit, tiens, pour ces quelques émissions de rentrée, Carole va être là pour reprendre la main au cas où, bien évidemment.
Et je suis très en forme. Ma voix est là également. Donc, ravie de retrouver nos auditeurs et de pouvoir parler d'actualités scientifiques avec toi. C'est bien de démarrer la rentrée comme ça.
Eh bien, c'est très bien de démarrer la rentrée, même si, c'est ce qu'on se disait sur le trajet, parce qu'on a eu le temps de discuter hein, dans ces bouchons, qu'en fait, l'actualité scientifique, objectivement, n'a pas été nécessairement folichonne. En fait, il n'y a pas eu de grands faits marquants. On regrette même presque l'époque du Covid, quelque part. Tu vois.
Mais non, peut-être pas jusque-là.
Hein. On ne parle quasiment plus de science à la télévision, si ce n'est par l'aspect réchauffement climatique ou dérèglement climatique. C'est le seul moment où on en parle. On parle pratiquement plus d'espace à part, et on évoquera ça dans cette émission, quand les Russes ont un petit peu foiré leur alunissage sur la Lune. Donc effectivement, mais bon, on n'est pas nécessairement sur un aspect scientifique. Sur l'aspect médical, c'est assez pauvre aussi. Quand on prépare cette émission avec Carole, on lit un petit peu les revues d'actualité scientifique que l'on trouve soit presse écrite, soit sur Internet. Il y a quand même des sites très bien faits. Et objectivement, j'avoue que il y a eu une actualité plutôt pauvre et c'est assez rare parce qu'en général, la première émission du mois de septembre, j'ai 2 mois, voire 2 mois et demi de retard par rapport aux émissions du mois de juin et j'ai une tonne d'informations à donner. Là, ça sera un petit peu plus calme et c'est ce que l'on va voir dans cette émission. Émission que vous suivez donc en direct aujourd'hui sur Graphite. Sur la bande FM, bien sûr.
Bien sûr, 94.9 FM. Non, je vérifie, je me fais moins confiance, mais...
Et sur Internet, t'as moins tes réflexes, en fait. Et sur Internet également.
Sur www.graphite.net. Et je sais déjà qu'il y a des gens qui nous écoutent sur Internet.
C'est quand même la seule au monde qui dit encore www.
Oui, bah oui, bah oui. Je trouve que c'est...
http://. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous suivez l'actualité de Graphite. C'est la rentrée de l'ensemble des émissions de Graphite depuis quelques jours. Enrique, c'était sa rentrée également. Il nous a essoufflé parce qu'évidemment, on a dû danser sur ses musiques.
C'est vrai, hein. Oui.
Il n'est pas sympa en fait, Enrique. À chaque fois, il me fait le coup. Et moi, à chaque fois, je tombe dans le panneau, j'arrive, je danse et j'ai plus de souffle pour poursuivre. Si vous souhaitez réagir, bien évidemment, 06 95 065 026 pour réagir dans cette émission. Si vous le souhaitez, nous sommes donc le 9 septembre. C'est la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale.
C'est important parce que justement, alors j'avais justement lu un article, mais que je ne vais pas détailler tout à l'heure, et qui disait que la prévention n'était pas encore justement à la hauteur, hein, que malheureusement il y avait des risques qui n'étaient pas encore assez pris en compte.
C'est assez étonnant parce que j'ai toujours entendu parler de ça. Je me dis qu'au bout d'un moment, le message devrait être compris, assimilé, et en fait non. Et donc on est encore obligé aujourd'hui d'avoir une journée internationale sur ce sujet-là. Au niveau de l'éphéméride, rien ne s'est passé un 9 septembre d'un point de vue découverte. Je ne sais pas. C'était la rentrée et en fait les chercheurs, c'est soit trop tôt, soit trop tard, ça ne convient pas. Par contre, une naissance, celle de Luigi Aloisio Galvani, c'est un Italien, parce que j'ai un peu forcé le trait également de l'accent. Il est né en 1737, un 9 septembre. Galvani, ça nous dit quelque chose quand même. Il était physicien, il était inventeur, il était également professeur d'anatomie. J'aime bien cette époque, là, on est au 18e siècle, 18e siècle, en France, en Italie, enfin, où on avait ces scientifiques qui touchaient un petit peu à tout. Parce qu'entre physicien et professeur d'anatomie, il y a quand même une distance, mais finalement, il l'assume totalement, Galvani. Et en fait, il a énormément travaillé dans le domaine de l'électricité, et c'est là qu'on se dit quelque chose. Ah oui, Galvani, ça a donné quelques noms de galvanisation, de cellules galvaniques, et comme c'est un nom qui a pu être décliné dans plusieurs langues, c'est donc Galvani un nom qu'on retient un peu. Dans cet éphéméride, je vous parle très souvent de scientifiques qui sont morts ou nés le jour de l'émission, et objectivement, il y a très très souvent des noms de scientifiques qu'on a totalement perdus. Ils avaient quand même apporté quelque chose d'un point de vue de découverte scientifique, par exemple. La Galvani, 1737, sa naissance, et on a toujours un nom qui reste un petit peu gravé quelque part. Décès, le 9 septembre 1981, donc là c'est quand même beaucoup plus récent, c'est le 20e siècle, c'est le décès de Jacques Lacan, psychiatre et psychanalyste français. Il a fait des études de médecine, il s'oriente vers la psychiatrie, il passe sa thèse de doctorat dans les années 30, il va intégrer la Société psychanalytique de Paris, et c'est après la Seconde Guerre mondiale que son enseignement de la psychanalyse prend de l'importance. C'est une évolution théorique qui accompagne une scission au sein même de cette Société psychanalytique de Paris dans les années 50, et c'est assez intéressant parce que du coup, il y a eu cette scission. Lacan est un nom effectivement que l'on retient encore également. Alors je vous avoue que moi, le côté psychanalyse est un domaine que je maîtrise absolument pas, et c'est pour ça que dans cette émission j'en parle très très peu, ce qui est fort dommage parce qu'il y a aussi énormément de sujets qu'on pourrait aborder. Je vous avoue que je ne suis pas à l'aise, donc c'est pour ça que je m'aventure pas dans ce domaine-là. Et ça me fait penser que lors des premières émissions de Biotine, ça va faire 15 ans déjà qu'on a démarré cette émission, et j'avais eu un professeur, dont le nom m'échappe également parce que je deviens vieux tout simplement, qui, je lui parlais de ce qu'on appelait des sciences molles.
Oui.
Et en opposition aux sciences dures. Et lui, ça l'agaçait énormément, et il avait trouvé, je trouve, une définition assez sympa. Il disait, c'est pas des sciences molles, ce sont des sciences souples. Et je trouvais que c'était quelque part assez révélateur de ces sciences, que molles, effectivement, par contradiction aux sciences dures, ça n'avait pas de sens. Mais donc, sciences souples, effectivement. Mais je n'ai pas, comment dire, des affinités sur ce genre de sujet, et c'est pour ça que j'aborde très peu, parce que je ne sais pas comment le maîtriser par le média radio. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est donc il y a une quarantaine d'années, 42 ans, la mort de Jacques Lacan, qui effectivement avait quand même eu un impact très important au niveau de la psychanalyse française, bien sûr. Voilà au niveau de l'éphéméride. Carole, alors, je sais que tu as plein de sujets à aborder.
Évidemment, et c'est vrai que du coup, là, j'entends ce que tu nous dis là-dessus. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je ne dirais pas que je maîtrise forcément, mais qui vraiment retient mon attention. Et notamment, j'ai quand même vu passer une actualité là, pendant l'été, sur de nouveaux traitements en fait, qui sont utilisés pour traiter certaines pathologies psychiatriques, comme la dépression ou des fois d'autres choses beaucoup plus lourdes. Et donc là, du coup, alors, on ne détaillera pas l'article aujourd'hui, mais j'entends le message. Et écoute, peut-être que dans de prochaines émissions, on reviendra. Parce qu'il se passe des choses. Il se passe des choses sur notamment la prise en charge de certaines pathologies où on n'a pas l'impression qu'il y a certaines avancées. Et en fait, pour en dire un peu plus, parce que ça fait un peu l'actu, et ça fait l'actu aussi au niveau de certaines séries ou certains films, en fait, on se rend compte qu'il est possible de traiter ces pathologies avec des champignons hallucinogènes, et que justement, bien encadré, ça ne serait pas vraiment dangereux. On sait aussi pourquoi ces recherches ont été freinées. En fait, il y a eu des intérêts politiques, économiques, etc. Mais en fait, il y a des choses qui marchent et que malheureusement, on avait laissé de côté bien avant, donc dans le début du 20e, au milieu du 20e siècle plutôt. Et on le redécouvre aujourd'hui, on le met en pratique et on peut vraiment aider des gens qui sont en grande difficulté.
Et ben écoute, si t'as l'article, je veux bien qu'on l'évoque prochainement, effectivement, parce que je trouve que c'est un sujet qu'on aborde très peu. En fait, pour continuer sur ce sujet-là, je pensais, mais ça ne vient pas encore, qu'on aborderait ce sujet-là comme outil d'analyse des conséquences du Covid.
Oui.
Et je m'attendais, je l'ai parfois dit dans ce micro, on avait quelques articles sur l'après-Covid et cet aspect-là me semble important. Je pense qu'il est encore trop tôt en fait.
Peut-être.
On n'a pas le recul nécessaire et ça viendra peut-être. Mais je m'attends que le Covid, moi j'ai toujours dit à ce micro qu'on va avoir des enseignements d'un point de vue scientifique au sens large avec le Covid. Des enseignements positifs et négatifs, évidemment. Mais on va apprendre énormément de choses, parce que là, ça a été une expérience à l'échelle de l'humanité. C'est assez rare. Donc, on aura éventuellement des sujets à aborder. Et je me dis qu'au niveau psychanalyse, c'est certain qu'il y a des sujets d'études. Mais pour l'instant, ils ne sont pas sortis. Donc, on attend un petit peu. Et d'ici là, j'aurai peut-être moins d'appréhension pour aborder ces sujets, bien sûr.
Et moi, du coup, je vais enchaîner en revenant sur un sujet qui va faire écho à des choses qu'on a déjà abordées dans l'émission, puisqu'on a souvent parlé des études que faisaient les Chinois sur les cellules souches. Alors, ils ne sont pas les seuls sur les cellules souches, mais par contre, c'est vrai qu'eux, on a souvent vu des avancées et des choses, ou sur certains modèles animaux, qui suscitaient quand même un certain débat dans l'émission pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux lois de bioéthique, etc. Parce que toujours, ça vient challenger ces idées.
Et surtout, de ce que l'on sait, c'est-à-dire de ce qui est communiqué.
C'est ça, parce que tout
c'est
n'est certainement pas
la petite
mis sur la
de
place publique. Exactement.
Évidemment. C'est pas complotiste de dire ça. C'est une réalité. Il y a évidemment plein de choses qui existent sur ce domaine-là qu'on ne sait pas.
Et puis
on n'a pas, nous, modestement, les moyens d'avoir ces informations. Mais effectivement, le moindre sujet qui arrive sur la place publique fait débat. Fort heureusement, d'ailleurs.
Oui. Et alors, ils publient quand même certaines de leurs avancées scientifiques. Là, en l'occurrence, c'était dans la revue scientifique Cell Stem Cell, donc justement sur les cellules souches, puisque donc cette équipe chinoise, elle a réussi à faire pousser un rein constitué majoritairement de cellules humaines dans un embryon de cochon. Et donc ça ouvre la voie, et on va en parler un peu plus en détail justement, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement améliorer la culture d'organes humains dans d'autres espèces. Alors ce sujet, il est, j'allais dire, chaud au niveau de l'actualité depuis la première xénogreffe réussie chez un humain. Donc pour rappel, c'était un rein de cochon implanté chez une personne en mort cérébrale en octobre 2021. Et à la suite, il y avait eu une xénogreffe de cœur en 2022. Donc ça avait fait l'actu justement à cette époque. Mais le transplant d'organes porcins chez des humains, qui se dessine comme une solution potentielle pour pallier la pénurie actuelle de greffons, il suscite encore de nombreuses questions. Donc les experts prévoient de commencer des essais cliniques utilisant ces organes porcins chez des humains en 2024. Cependant, ces greffons provenant d'une autre espèce impliquent un risque accru de rejet, car le corps humain peut réagir aux molécules produites par l'organe porcin et l'attaquer. Et même si le rejet hyper aigu a été évité dans les xénogreffes que je viens de citer, c'est-à-dire que le corps des receveurs n'a pas rejeté le greffon immédiatement après l'implantation, le risque de rejet ultérieur existe encore, comme cela a été montré par une équipe française en août 2023. Puisque cette équipe, elle a proposé des façons justement de limiter ce risque de rejet, mais finalement le plus sûr, ce sera encore de retirer entièrement de ses organes toute trace du cochon. Ce qui évidemment n'est pas simple, c'est encore un énorme sujet. Donc pour cela, des équipes tentent de faire pousser des organes humains chez des cochons. Et justement, des chercheurs donc des instituts de biomédecine et santé de Guangzhou, en Chine, ont fait un pas justement de plus vers cette possibilité donc de cultiver des organes humains dans d'autres espèces, en montrant qu'ils ont réussi à faire pousser un rein constitué majoritairement de cellules humaines dans un embryon porcin. Alors, il y a eu plusieurs tentatives qui avaient déjà été essayées dans ce sens, mais à chaque fois, les cellules de l'animal prenaient le dessus sur les cellules humaines. Donc je me suis renseignée là auprès de plusieurs articles, notamment donc dans Science et Avenir et aussi France 24 pour avoir toutes les informations et pour voir exactement ce qu'ils avaient fait. Donc Liangshu Lai, un des principaux auteurs de l'étude, souligne que des organes de rats avaient déjà été cultivés dans des souris, des organes de souris dans des rats, mais les tentatives passées visant à développer des organes humains dans des porcs, ça s'était soldé jusqu'à présent par un échec. Donc ce qu'il dit, c'est que leur approche, elle a permis d'améliorer d'améliorer l'intégration des cellules humaines dans les tissus du receveur et de permettre de faire croître les organes humains au sein donc, d'organismes de porcs. Pour un autre spécialiste donc, des cellules souches, Dusko Ilić, qui travaille au King's College de Londres, cette étude décrit les étapes fondatrices d'une nouvelle approche dans la bio-ingénierie des organes en utilisant des porcs comme incubateurs à la croissance d'organes humains. Alors évidemment, ça soulève des enjeux éthiques et il y a encore de nombreux défis afin que cette expérience puisse constituer une solution viable pour faire face à la pénurie des dons d'organes. Mais il s'agit néanmoins d'une stratégie fascinante qui mérite d'être creusée. Ça, c'est ce que nous disent encore évidemment les Chinois qui vont défendre leur recherche. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, l'un des principaux défis pour créer de tels hybrides, ça tient à ce que donc, les cellules de porc fassent concurrence aux cellules humaines. Pour surmonter justement cet obstacle, l'équipe de l'Institut de Canton, donc Guangzhou, Canton, hein, c'est la même ville, a utilisé un nouvel outil de modification du génome nommé CRISPR. On en a déjà parlé dans l'émission, c'est utilisé pour couper justement l'ADN à un endroit spécifique. Donc, plus précisément, ils ont coupé deux gènes liés à la croissance des reins dans l'embryon de porc pour créer ce qu'ils nomment une niche. Puis ils ont ajouté des cellules souches humaines pluripotentes, c'est-à-dire capables de se transformer en n'importe quel type de cellule. Au total, les chercheurs ont transplanté 1820 embryons dans 13 mères porteuses et mis fin à leur grossesse entre 20 et 28 jours plus tard pour voir si l'expérience avait réussi ou non. Or, 5 des embryons choisis pour l'analyse avaient des reins fonctionnels pour ce stade de développement et commençaient à développer un urètre qui finirait par connecter les reins à la vessie. Et ils étaient composés entre 50% et 60% de cellules humaines. Ça, c'est la conclusion des chercheurs. Un des chercheurs, Jen Dai, co-auteur de l'étude, a indiqué « Nous avons découvert qu'en créant une niche dans l'embryon de porc, cela permettait aux cellules humaines de prendre naturellement leur place », précisant que des cellules humaines avaient toutefois été retrouvées dans la moelle épinière et les cerveaux des porcs. Donc on imagine bien qu'après, en effet, ils ont disséqué hein, tous ces embryons et ils ont regardé exactement où se trouvaient les cellules. Donc, bien qu'aucune cellule humaine n'ait été retrouvée dans les organes génitaux des porcs, leur présence déjà hors des reins et notamment dans le cerveau pose des questions éthiques sur les créatures hybrides. Ça, c'est ce que note un professeur qui travaille à l'université de Reading, Darius Videra. Donc, cette approche, c'est un nouveau jalon dans la recherche, hein, une première tentative réussie de faire croître des organes contenant des cellules humaines dans les porcs. La proportion de cellules humaines dans les reins générées ne reste pour autant, pas encore très élevé, puisque je l'ai dit, c'est 50 et 60% de cellules humaines. Pour l'heure, l'équipe chinoise reconnaît ne pas être prête pour transplanter un de ses reins sur un humain, mais elle espère y arriver un jour en peaufinant sa technique. L'un des principaux problèmes tient à ce que les reins ainsi produits gardent, donc on l'a dit, ils sont au sein de l'embryon de porc, donc ils vont garder un système de cellules vasculaires héritées du porc. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a parlé des causes de rejet, et ça risque justement de créer un rejet en cas de transplantation de ces organes chez l'humain. Donc c'est-à-dire que déjà là, on a l'étape d'essayer d'utiliser ces modèles animaux pour créer des organes qu'on pourrait transplanter chez l'homme, mais en plus après, il faut imaginer la difficulté, même si on arrive à créer l'organe de manière fonctionnelle, de le transplanter puisqu'il est connecté à tout le système, donc là en l'occurrence le système vasculaire, du coup du modèle animal. Outre les reins, l'équipe de l'Institut de Canton travaille déjà à la croissance d'autres organes humains dans les porcs, comme un pancréas ou un cœur. Voilà, c'est ce qu'on nous dit pour l'instant.
Mais on va y arriver en fait, d'un point de vue technique, scientifique, on va arriver à trouver les solutions, je n'ai aucun doute. Mais tu l'as dit dans l'article, je l'ai dit des milliards de fois à ce micro, quand est-ce qu'à un moment on va permettre d'instaurer le débat ? Alors entendons-nous bien, là c'est une émission de médiation scientifique, l'idée de la médiation scientifique c'est de transmettre l'information de façon la plus claire possible. Et on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on n'a pas à donner un avis. Qui suis-je pour dire c'est bien, c'est pas bien ? J'ai un avis personnel, mais dans le cadre de cette émission, on n'a pas à donner son avis. Mais on doit impérativement exiger qu'il y ait un débat sur ces sujets-là, parce qu'il y a tout simplement des questions qui se posent d'ordre éthique, évidemment, parce que la science avance, elle ne va pas s'arrêter, elle ne va pas dire « alors attendez, il faut que les humains se posent des questions ». Non, non, elle va avancer. Et là encore, je pense qu'on est très en retard par rapport à la réalité de ce qui doit exister, je pense. Et c'est pas du tout complotiste. C'est tout simplement de se dire qu'il y a un progrès scientifique qui ne s'arrêtera pas. Mais on n'a jamais posé ces questions-là au public. Et ça me désole.
Il y a des lois de bioéthique quand même qui sont là pour encadrer, mais c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que ça prend toujours du temps et que la science...
Elles existent en Chine, ces lois de bioéthique? Je ne sais pas.
Normalement, elles existent dans le monde. Hein. Ça concerne
pas tous les pays?
Normalement, oui. Oui, oui, oui. Alors après, ce qu'on a déjà observé, c'est là où je vais être moins spécialiste, mais c'est qu'en Chine, ils se permettaient de faire des choses qu'évidemment, nous, par exemple, en France, on ne pourrait pas faire. Ça, on l'a observé. Donc je ne dis pas qu'il y a une harmonie complète. Maintenant, non, il y a quand même des garde-fous. Néanmoins, en effet, on ne sait pas tout ce qui se fait. On ne sait pas forcément où ça en est exactement, parce que tout n'est pas, en effet, communiqué, parce qu'il y a des recherches qui sont quand même forcément très secrètes, hein, le temps qu'on maîtrise une technologie. De toute façon, ça, sur de la greffe d'organes sur des êtres humains, on va le voir. C'est-à-dire qu'une fois quand même que par contre c'est greffé, on est au courant. Donc on va suivre ça.
On va suivre ça parce que c'est des sujets qui touchent à l'intime. Et qui sommes-nous pour dire on n'a pas à faire ça pour quelqu'un qui est en manque de greffe?
Oui.
La question est horrible en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'on ne se pose pas cette question. Et à un moment, on va arriver face à un mur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on va... Voilà. Et ouais. Je trouve ça très dommage que ce genre de sujet ne soit pas plus souvent mis sur la table. Et très régulièrement, on a ce genre d'article passionnant d'un point de vue scientifique. Ce que tu viens d'expliquer est passionnant, en fait, d'un point de vue purement scientifique. C'est génial. On voit très bien, tu as expliqué, voilà, il y a quelques technologies. Si je caricature un peu... On peut faire ça dans notre garage, entre guillemets, en faisant un petit labo clandestin. Je caricature un peu, mais il y a l'idée de se dire qu'on a maintenant sur étagère presque toutes les technologies qui vont nous permettre de faire presque tout ce que l'on veut. Là, on est en train de régler des détails. Des détails de rejet, c'est du détail, on va y arriver, en fait. C'est fascinant, mais je trouve ça très dommage, voilà, qu'on ait... beaucoup de retard sur beaucoup de sujets, en fait. Mmh.
Et là, ce qu'on voit et qui est intéressant, parce que, alors, sans spoiler la suite de l'émission, je vais avoir un autre article sur un sujet similaire où, pareil, bah là, on va voir justement qu'il y a des règles, hein, il y a quand même un encadrement. Mais en fait, là, pour la première fois, on se pose aussi la question de l'éthique vis-à-vis de l'animal. Alors, pareil, là je vais parler de la France, mais de l'Europe. Quand on travaille sur des modèles animaux, il y a quand même des règles par rapport à la souffrance animale. On ne peut pas faire n'importe quoi. On tue des animaux, là c'est bien dit. Hein. Ils interrompent les grossesses des truies, hein, du coup. Et donc évidemment, ça c'est quand même encadré. Il y a des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi. Là je trouve ça intéressant de se poser la question du point de vue de l'éthique donc, concernant l'animal qui serait colonisé, entre guillemets, par des cellules humaines qui viendraient. Alors il parle des organes reproducteurs parce qu'en fait, de se dire, oulala, ça aurait quels impacts potentiellement si ces animaux se reproduisaient, quels impacts si on retrouve des cellules au niveau du cerveau, etc. Donc je trouve que c'est intéressant parce que pendant quand même longtemps, on n'en avait un petit peu rien à faire de l'animal. Enfin, je veux dire dans le sens où on l'utilise pour nos recherches, pour nous, nos objectifs. Voilà, c'est un outil, quoi. Et là, on voit quand même qu'il y a des questions. Je pense qu'il y a plusieurs décennies, on ne se serait pas posé.
Tu as entièrement raison. C'est assez récent comme prise de conscience, qui est totalement salutaire, je suis d'accord. Mais quelque part, je considère que c'est une fausse question, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu si on vous mettait ça sur la table, allez-y, battez-vous sur ce sujet-là, et pendant ce temps-là, la suite, elle avance. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est faire diversion d'une façon
ensemble.
Très efficace.
Oui.
Ça va ensemble, mais on ne va pas jusqu'au bout du sujet. Mais tu as entièrement raison, c'est une prise de conscience salutaire parce que effectivement c'est une question à se poser. En se disant la science a avancé grâce aussi à l'utilisation de ces animaux. Et voilà, c'est un vrai sujet. Moi, là encore, dans le cadre de cette émission, je ne donnerai pas d'avis.
Qui sommes-nous? Voilà, on pose les éléments, on pose le débat et on fait réfléchir.
C'est un débat de société, c'est à la société de s'exprimer. Et jusqu'à maintenant, je ne considère pas être la société à moi tout seul. Carole, il fait chaud dans ce studio. Je pense que c'est presque la fin du monde. En tout cas, c'est Diane. Diane va nous chanter la fin du monde. Vous écoutez Graphite, ne nous envoyez pas de SMS. Je ne sais pas où est le téléphone et la tablette. Je vais essayer de retrouver ça pendant qu'on va écouter Diane. Une petite pause musicale. Vous écoutez Graphite avec Carole. À tout de suite.
Je veux la fin du monde pour partir avec toi. Je veux la fin du monde. Apocalypse vie. Danser dans les décombres. Les supermarchés vides. Et la nature en bombe. Je veux faire des rimes pendant que les murs tombent. cool, on y va. Je veux la fin du monde pour partir avec toi. Je veux la fin du monde. On verra les étoiles depuis le précipice. La nuit sera à poil, dépourvue d'artifice.
Il est 12h29 sur Graphite et vous nous écoutez sur le 94.9 FM.
Diane, elle veut la fin du monde. Bah, sois patiente, Diane, ça arrive, c'est tout. Il suffit d'être patient. Dire, quand on voit des températures qu'on a le 9 septembre, il fait 35 degrés à peu près partout et je pense 58-60 dans ce studio. J'ai l'impression.
C'est un test pour voir notre résistance justement à cette fin du monde.
Tu m'étonnes. Voilà, c'était Diane sur l'antenne de Graphite. On continue, Carole, un petit peu dans ces thématiques.
Oui, on reste sur le sujet. Exactement, parce que j'ai trouvé un autre article justement dans l'actualité dont je voulais parler dans l'émission. C'est des scientifiques qui cette fois-ci ont créé un embryon humain sans l'aide de spermatozoïdes ni d'ovules. Au début, je me suis dit, oulala, de quoi s'agit-il ? Alors ça a été, c'est vraiment été relayé dans la presse classique, Libération, L'Express, etc. On l'a vu dans tous les journaux. Mais j'ai essayé de trouver quand même des articles un petit peu plus scientifiques. Donc ça peut paraître un petit peu fou comme ça, mais c'est des chercheurs israéliens qui ont bien réussi l'exploit de créer cet embryon humain à partir de quelques cellules souches. C'est une découverte qui a bien sûr une visée médicale et scientifique, et c'est également une première dans l'histoire de la médecine. Donc ça a été relayé en fait mercredi dernier, puisqu'ils ont annoncé avoir réussi cet exploit. En fait, c'est un simili-embryon, parce qu'au début, pareil, je me suis dit, mais c'est-à-dire, voilà. Et donc j'ai retrouvé, je conseille du coup à nos auditeurs d'aller voir sur Internet, en fait, notamment sur Twitter, sur le compte de Reuters, mais je pense aussi sur d'autres comptes. On peut voir en fait une vidéo, c'est-à-dire que celle-là, c'est très visuel, où on voit justement qu'est-ce qu'ils ont recréé, ce simili-embryon, à quoi il ressemble et comment ça s'est développé en fait. Et c'est fait en images 3D avec différentes couleurs, ça permet de vraiment se rendre compte. Donc je vous conseille d'aller voir. Donc en laboratoire, ils ont réussi à faire ça sans recours ni à un utérus, ni à du sperme ou même à un ovule. Donc seulement, comme je l'ai dit, quelques cellules souches. Donc on s'en doute, c'est une petite révolution et c'est pour ça aussi que finalement ça a atteint plus que la presse scientifique, la presse plus généraliste. Et pareil, ça soulève des questions d'éthique. Ça, c'est écrit dans les différents articles que j'ai consultés, ils en parlent. Il cite évidemment Adolf Huxley donc sur son roman d'anticipation. Alors là, il cite Brave New World, pour ceux qui connaissent, où en fait, on parlerait d'êtres humains qui sont cultivés en laboratoire. Donc c'est vrai que voilà, ça fait fantasmer, on commence à imaginer. Alors, il faut rappeler qu'on en est vraiment très loin, puisque c'est encadré, ça se fera uniquement dans un but médical. Donc moi, au début, je me demandais justement à quoi ça allait servir. Et en fait, il y a justement une réglementation, c'est ce qu'explique Jacob Hanna, chef de l'équipe de scientifiques en charge du projet. La question, c'est de savoir justement éthiquement quand un modèle d'embryon est considéré comme un embryon. Et ce qu'il dit, c'est nous connaissons la réglementation parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on n'a pas le droit de les conserver, ces modèles embryonnaires, au-delà de 14 jours. C'est très, très encadré. Donc, du coup, ils savent que de toute façon, passer ce délai, normalement, on ne peut plus s'en servir. Et justement, c'est ce qu'ils disent, c'est que leur modèle, ça correspondrait justement à cet embryon de 14 jours, ce qui, à cette étape-là, en fait, il acquiert une structure interne, mais il n'y a pas encore l'émergence des premiers signes d'organes corporels. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette limite, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu, du coup, dans d'autres articles. Leur recherche à eux, elle a été publiée dans la revue Nature, donc la référence, évidemment. Et elle atteste que ce modèle pourrait servir afin de comprendre, par exemple, l'effet des médicaments pris lors de la gestation, l'effet donc sur l'embryon, les liens avec donc les fausses couches, les maladies génétiques. Puisqu'en fait, on se rend compte que finalement, on connaît peu de choses sur les phénomènes qui interviennent dans le cas d'une fausse couche, sur les maladies génétiques, les malformations, etc. Donc ça, c'est vrai que c'était extrêmement mis en avant dans les différents articles pour expliquer en fait pourquoi on développait ça, parce que c'est vrai que moi au début j'avais pas forcément non plus compris, donc on le développe pour essayer de comprendre tous ces mécanismes, pourquoi ça arrive. Et en extrapolant, les chercheurs supposent même que cet embryon serait un premier pas vers une forme de culture de tissu et ou d'organes en vue d'une transplantation. Le lien voilà est fait avec les fameuses recherches des Chinois dans mon article précédent.
Ben merci Carole, j'allais répéter la même chose, donc je ne vais pas répéter la même chose, mais c'est le même sujet.
Enfin, c'est le même sujet.
On est
c'est
sur,
le même
les, sujet. Sur les mêmes thématiques en fait, c'est fascinant, ce que tu viens de dire est fascinant, mais ça nous échappe un peu, et des films qu'on a vus il y a 15, 20, 30 ans qui abordaient ces sujets-là,
oui, deviennent
étaient des science-fiction,
oui.
Et ça devient de les sciences.
Oui. C'est moi, je pense, ça me fait penser à chaque fois à Bienvenue à Gattaca, qui est un film de référence quand même sur ce sujet et qui pose justement toutes ces questions éthiques, c'est-à-dire quand on aura réussi à améliorer l'homme parce qu'on est sur quand même pas mal de technologies. Alors là, on veut comprendre justement, mais pour éviter des malformations, pour éviter. Donc, c'est sûr que c'est des choses qui sont dramatiques, mais on est quand même dans cette réalité presque de l'homme augmenté. Quand on pourra, alors les greffes, on pense bien sûr aux personnes qui en ont besoin pour juste mener une vie normale, mais c'est aussi la question après du transhumanisme, mais après, est-ce qu'on se fera pas quand nos organes arriveront, à échéance, parce que une vie humaine, c'est en général à peu près 80 ans, avec maintenant la médecine qu'on a, etc. Est-ce qu'on pourra les remplacer? Est-ce que ce sera accessible à une certaine partie de la population? Voilà, le débat est posé.
Voilà, tu poses le débat sur la table, débrouillez-vous. Bon appétit.
Bon appétit, oui, pour ceux de nos auditeurs qui sont en train de déjeuner.
Comme tu as abordé donc un sujet de génétique, il y a eu cette information pendant cet été qui m'a surpris, parce que je pensais en fait qu'on avait déjà eu l'information concernant le décodage du chromosome Y. Dans nos cellules, il y a 46 chromosomes. Plus précisément, il y en a 23 paires. Et ce sont ces chromosomes, l'ADN, des filaments très longs d'ADN et contiennent toute l'information génétique. Les 22 premières paires, elles sont identiques chez les hommes et chez les femmes, et c'est la 23e paire qui est différente entre les deux sexes. Si vous avez fait des cours de génétique ou de biologie, je ne vous apprends rien, car on se souviens que les filles, c'était deux chromosomes X, et les garçons, c'était un chromosome X et un chromosome Y. Je pensais qu'on avait décodé tous les chromosomes. Et en fait, non. On apprend que chaque chromosome du génome humain avait déjà été séquencé par le passé à part le chromosome Y qui donc gardait un petit peu précieusement tous ses secrets. Il y a donc eu un consortium de plus d'une centaine de scientifiques qui ont voulu quand même percer un petit peu les mystères du chromosome Y, et ils ont réalisé pour la première fois dans l'histoire le séquençage donc complet de ce génome humain. Leur étude est publiée dans la revue Nature, évidemment.
Ah,
donc
sûr.
Si c'est Nature, c'est sérieux. Bien que ce soit le plus petit de nos chromosomes, le chromosome Y, eh bien c'était le plus compliqué à étudier. Ah bon ? Bah, normalement, si c'est plus petit, ça devrait le faire. Et en fait, non. Parce qu'on se rend compte qu'il est constitué, ce chromosome, d'une multitude de petites séquences répétitives qu'on appelle palindromes, ce qui veut dire qu'elles peuvent être lues dans les deux sens. Et donc, les méthodes de séquençage de l'ADN qui sont utilisées actuellement ne permettaient pas de pouvoir maîtriser ces minuscules séquences et d'essayer de reconstituer un puzzle géant. C'est comme si tu avais un puzzle avec que des pièces identiques. Je caricature un peu, mais c'est un peu cette idée du côté laborieux de cette étude, c'est-à-dire qu'il fallait mettre dans le bon sens des petits morceaux d'ADN pour en faire le chromosome en entier. C'était un travail de chien. Les autres chromosomes avaient des séquences beaucoup plus longues, clairement identifiées, et donc tu arrivais à mettre des grosses pièces du puzzle et du coup tu arrivais à caser les plus petites. Là, tu n'avais que des toutes petites pièces qui étaient toutes bleues pour faire un espèce de tableau bleu. Et donc, du coup, comment tu t'y prends ? Ben, le travail est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que, du coup, ce chromosome Y a été le dernier à pouvoir être séquencé. Et je ne savais pas, je pensais avoir lu par le passé qu'on avait séquencé l'intégralité du génome humain. Et en fait, non, il manque ce chromosome Y. Et donc, on a des informations assez intéressantes, bien sûr, sur ce chromosome Y, parce qu'il contient des informations qui vont permettre d'avoir une détermination par rapport au sexe. Et donc, du coup, ça peut avoir aussi des incidences, parce qu'il paraît, Carole, que les hommes et les femmes, d'un point de vue génétique, sont différents, et qu'il peut y avoir ensuite des expressions de ces gènes différentes. Et donc, du coup, je prends énormément de pincettes, parce qu'on sait qu'on aborde aussi un autre sujet.
Oui. Je vois très bien.
C'est pas sympa de temps d'aborder ce genre de sujet-là. Donc je me mets d'un point de vue purement scientifique. L'implication de ce chromosome Y, ou en tout cas l'expression des gènes présents sur ce chromosome Y, peuvent donc avoir une incidence sur l'expression d'autres gènes également présents sur d'autres chromosomes, et donc une incidence sur le fait qu'on a d'un côté une fille, d'un côté un garçon, qui ne sont génétiquement pas pareils. Mm-hmm. C'est pas simple d'aborder ce sujet-là. Et donc du coup, le fait d'avoir maintenant ce chromosome Y, on va pouvoir enfin lancer un petit peu plus de recherche et d'investigation pour essayer d'en savoir un petit peu plus et d'avoir une... Comment dire ? C'est comme si maintenant tu avais au restaurant la carte avec l'intégralité du menu. Ça ne te dit pas la saveur des plats. Oui. Donc tu vois, il va falloir maintenant continuer à avancer sur ce sujet-là. On a juste une carte. Il faut juste, ou alors une carte routière, il faut juste maintenant essayer de visiter un petit peu partout pour comprendre l'intégralité de la topographie, par exemple. Je t'invente des trucs comme ça sur la volée, je suis assez fier de moi. Donc voilà, l'information qu'il faut retenir, c'est que le mystérieux chromosome Y est enfin décodé, et donc il va pouvoir nous apprendre des informations aussi sur l'évolution de l'homme, bien évidemment. C'est ça qui est intéressant, et on suivra bien sûr les informations sur ce sujet-là, parce que la génétique, ça me rappelle des cours que j'ai eus il y a 25 ans.
Et ça ne nous rajeunit pas, moi aussi c'est il y a quelques années. Hein.
Et c'était un sujet que je trouvais fascinant, bien évidemment, et c'était un sujet qui avait bénéficié aussi d'un vrai support de vulgarisation grâce au Téléthon. Le Téléthon a été aussi un support de vulgarisation sur ces sujets-là. Très important, on l'a toujours sous-estimé, c'est un peu dommage, parce qu'on peut aborder, tu vois, ces notions de génétique, de chromosomes, beaucoup plus facilement, parce que les Français, entre autres, ont été un petit peu conditionnés et habitués à ce genre de sujet et maîtrisent mieux ces sujets-là. Et c'est tant mieux, c'est un très bon exemple. Donc on suivra l'aventure du chromosome Y, bien évidemment. On va peut-être écouter un autre titre et on reviendra sur deux petites informations brèves, et je crois que tu as encore une information également pour finir cette émission de Biotine. Et
tout
oui, ça
fait.
Passe tellement vite en votre compagnie. Le 94.9 Bande FM, le graphite.net pour nous suivre sur Internet. À tout de suite, on écoute Nick Hakim. J'ai bugué, il y a trop de K dans son nom, il faudrait qu'il change. À tout de suite sur leur tête de graphite.
Thank you.
Il est 12h44 sur Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
Et c'était Nick Hakim avec Vertigo sur l'antenne de Graphite. J'ai l'impression qu'on découvre une nouvelle playlist qui a été mise à jour. En tout cas, je ne connaissais pas les deux titres qu'on vient de passer dans cette émission. C'est très sympa. C'est la radio curieuse que vous écoutez, bien sûr. Deux petites informations qui datent de cet été. La première, c'est la sonde russe Luna 25 qui était censée atterrir en douceur sur la surface de la Lune. C'était le 21 août dernier. Eh bien, cette sonde russe s'est écrasée. La sonde entamait des manœuvres pour parvenir à alors un atterrissage, nous dit l'article de Futura Science, mais je pense que c'est plutôt un alunissage en toute sécurité. Oui. L'incident s'est produit suite à l'allumage du moteur qui visait donc à placer cette sonde Luna 25 sur une trajectoire en direction de son site d'alunissage. Malheureusement, le signal a été perdu juste après cette manœuvre. Il y a eu plusieurs tentatives de communication infructueuses et la sonde a été officiellement considérée comme perdue. Tu m'étonnes, elle s'était écrasée. Et donc, dans le but de comprendre les raisons de cet incident qui a entraîné la perte, bien sûr, de la mission, eh bien, une commission d'enquête sera rapidement mise en place. Mais on le sait très bien qu'en ce moment, le contexte géopolitique complexe pour la Russie, il paraît, j'en sais rien, on ne nous dit jamais rien, eh bien, ça complique un petit peu les choses, car le président Vladimir Poutine avait précédemment affirmé vouloir la poursuite du programme spatial russe, malgré la rupture des partenariats internationaux et les sanctions occidentales visant son pays. Et donc cet échec subi constitue vraiment un revers significatif pour le programme russe d'exploration robotique lunaire. Cette mission Luna 25, elle visait principalement à démontrer les avancées technologiques nécessaires pour garantir un alunissage précis lors des futures missions lunaires russes. Il faudra donc patienter jusqu'à ce que cette commission d'enquête puisse publier ses conclusions pour essayer d'évaluer l'ampleur des retards potentiels de ce programme lunaire russe. Et la durée de ce retard va dépendre des causes un peu sous-jacentes à cet incident. Est-ce que c'est un problème technique isolé ? Est-ce que c'est une série d'événements malheureux ? Est-ce que c'est un défaut de conception ? Et donc du coup, quand on le saura un petit peu plus, on pourra mieux avoir un scénario de réparation par la suite. Et pour mieux appréhender la complexité de la situation pour les responsables russes, eh bien, il est crucial de comprendre que la Russie, elle vise en fait à maintenir un rythme de lancement élevé dans les années à venir. Alors là encore, d'un point de vue technologique, c'est génial, bien sûr. Mais c'est quand même d'un point de vue économique, c'est des coûts très importants dans un pays en guerre. Et en guerre, et aussi, comme on l'a dit, les Russes vont être obligés de concevoir des instruments, des équipements que, par exemple, l'Agence spatiale européenne ne souhaite plus lui fournir pour des raisons de guerre également. Donc, il va falloir essayer pour les Russes de recommencer à construire des choses. Est-ce qu'ils maîtrisent la technologie ? Est-ce qu'ils ont les moyens financiers ? Est-ce qu'ils ont les moyens matériels ? Est-ce qu'ils ont les moyens humains ? Il y a beaucoup de questions qu'il va falloir se poser. Au départ, le lancement de la prochaine sonde, donc l'UNA 26, c'était de faire une mission de surface de la Lune, c'est-à-dire de se poser clairement sur la Lune, était prévu en 2027-2028. Il y avait l'idée d'avoir un retour d'échantillons lunaires prévu à partir de 2030. On est peut-être là maintenant sur des échéances un peu plus longues, bien sûr, parce que du coup, il va y avoir un retard assez conséquent que pour l'instant on ne maîtrise absolument pas. Ça c'est du côté russe. J'avais lu rapidement un article, alors je ne l'ai pas sous les yeux, où la NASA a annoncé également du retard. Donc je ne sais plus pour quelle raison, donc je ne vais pas m'avancer, mais voilà, je vous disais que cette décennie va être géniale d'un point de vue espace. Elle l'est, on a plein de choses qui se passent. Il y a les Indiens qui ont atterri, je crois qu'on en parlera dans le courant du mois de septembre, qui ont atterri. Enfin, les Indiens, c'est génial que l'Inde se lance également. Les Chinois, j'en parle pas, ils sont en avancée sur plein de choses. Mais donc voilà, on a une décennie, mais c'est peut-être pas aussi évident que cela d'un point de vue technologique. Et puis aussi, on sait très bien que c'est du m'as-tu vu. Hein. Enfin, je veux dire, moi, j'arriverai avant toi. Il y a
c'est
aussi
vrai
de la com.
La course, et oui, évidemment, après, on joue là-dessus.
Il y a de la communication, ouais. Bien évidemment. Et donc, du coup, on suivra ça d'un point de vue scientifique. C'est bien sûr passionnant. Je ne t'apprends rien, Carole, sur le fait qu'il fait chaud, bien évidemment.
Non, en effet, je suis au courant.
Un peu partout en France. Et afin de mieux se préparer aux risques climatiques actuels et à ceux qui vont s'amplifier, paraît-il, dans le futur, il y a une équipe de chercheurs anglais qui a analysé un ensemble de données sur plus de 800 villes européennes et des données entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2019. Donc on est sur 20 années pleines. Des relevés météo, des chiffres démographiques sur les adultes de plus de 20 ans, des informations sur le type d'infrastructure présentes dans ces villes, des facteurs socio-économiques, topographiques, environnementaux. Les données proviennent notamment de Eurostat, également du MCC, le Multi-City Collaborative Research Network. En fait, c'est un outil collaboratif international qui permet notamment de recevoir des informations et des données, par exemple, à partir des satellites de la NASA. Bref, ils ont quand même une source de données assez conséquente et assez variée. Et grâce à ces outils, les chercheurs ont pu estimer les risques, les températures extrêmes en fonction de la position géographique des Européens. Le but, c'était d'avoir une idée précise des villes où les températures extrêmes, que ça soit chaud ou que ça soit froid, peuvent avoir la plus grande incidence sur la santé et la mortalité de ses habitants. Et les résultats sont édifiants parce que c'est l'Europe de l'Ouest, une région qui se réchauffe déjà 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde, qui est directement concernée. C'est également celle qui subit la plus grande surmortalité liée à la chaleur et au froid. Et selon l'étude qui a été publiée notamment dans la revue The Lancet, Paris et Londres sont les deux grandes villes européennes les plus à risque. Paris est la ville où le risque de mourir de chaleur est le plus grand. Londres est la ville où le risque de mourir de froid est le plus fort.
Par contre, pour Londres, j'aurais pas...
Voilà. Ça tombe bien, j'ai fait Paris et Londres cet été, donc j'ai bien choisi.
Bah, j'espère que tu en as bien profité, parce qu'après, je pense qu'il faudra aller vivre ailleurs. Ah, c'est ça,
j'ai bien un peu l'impression. Alors, question, pourquoi Paris ? On va constater un peu chauvinisme. Pourquoi Paris ? Pourquoi Paris arrive en haut du classement des villes d'Europe où la chaleur est la plus dangereuse, même devant l'Espagne, eh bien, ou même l'Italie, hein, parce qu'on sait qu'il fait encore plus chaud en Espagne et en Italie. Eh bien, c'est à cause des vulnérabilités de sa population et surtout de son urbanisation qui est complètement inadaptée à la chaleur. Paris est l'une des villes les plus exposées à ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. On peut observer des écarts importants de température entre Paris et les zones rurales qui peuvent atteindre jusqu'à 10 degrés de différence par rapport par exemple à une proche banlieue plus rurale entre guillemets, je trouve pas le mot, mais voilà, on sait qu'il y a des zones oui. dans la banlieue parisienne qui peuvent être considérées comme des zones rurales, et en fait une énorme différence de chaleur entre Paris, enfin on est sur quelques dizaines de kilomètres, c'est assez impressionnant. Plus précisément, le 2e et le 9e arrondissement sont ceux qui présentent le plus haut degré d'inconfort en cas de canicule en raison de la densité de sol imperméable et puis les bâtiments qui sont totalement inadaptés et aussi le manque de végétaux. Le froid reste tout de même plus mortel que la chaleur en Europe. Au niveau mondial, c'est le contraire.
Oui.
Au niveau européen, c'est quand même le froid qui est le plus mortel en Europe. Sur ces 20 ans d'études, on considère qu'il y a plus de 200 000 personnes mortes de froid en Europe.
Oui, c'est énorme.
On s'en rend pas compte.
Pour le coup, autant on en entend parler quand même pour la chaleur, de plus en plus évidemment. Pour le froid, j'avoue que j'ai l'impression que c'est quand même un peu en dehors de l'actualité, ça.
Pendant ces 20 ans d'études, 200 000 personnes mortes de froid, 20 000 de la chaleur.
Oui. Oui,
voilà,
moi,
l'écart entre les deux. Alors on a l'impression que ça serait l'inverse, qu'on parle beaucoup plus de mortalité en crise de canicule que du froid, mais parce que c'est essentiellement des personnes sans abri et c'est pas important. Non mais je dis brutalement quand je dis c'est pas important pour les médias. Là on est sur une information purement médiatique. Hein, les chiffres existent. Après c'est l'information qu'on en donne. Donc voilà, vous avez des chiffres qui sont assez révélateurs. Voilà les deux informations que je souhaitais vous donner. Je ne parlerai pas de cet autre article de Futura Science qui nous dit qu'il y aura 2 à 5 fois plus de canicules d'ici 30 ans. Nous allons nous épargner. Mais voilà, on sait très bien dans quel monde on vit, bien évidemment. Il est 12h53, peut-être un dernier article de ton côté.
Oui, tout à fait. Du coup, pour rebondir sur cette histoire de pollution, puisque en effet, c'est vrai que Paris a vraiment été épinglé. Moi, j'avais vu plusieurs informations là-dessus pour justement qu'il y ait une prise de conscience sur les températures élevées et surtout de pouvoir transformer en fait la ville et s'adapter donc à cette chaleur, cette pollution qui en découle. Donc c'est pour ça, moi je vais vous parler justement de la pollution et de ce qui est fait pour lutter contre. On en parle pourtant ça régulièrement, mais je trouve que c'est quelque chose qui, ça n'attire pas l'œil. On n'a pas vraiment envie de s'en préoccuper, mais c'est souvent rappelé sur les chiffres des personnes qui décèdent suite à la pollution dans le monde. Et ne serait-ce que même en France, en fait. Donc là, justement, cet article n'est pas là pour revenir sur les chiffres, mais par contre pour essayer de trouver des solutions. Puisqu'en fait, il y a une société française, Aérophile, qui a développé en fait de nouveaux appareils, les Para-M. C'est un système novateur qui a pour but de dépolluer les espaces ouverts. Et l'entreprise, elle a juste présenté fin août les résultats de ses premiers tests à la presse. Alors quand j'ai vu ça au début, je me suis dit oh là là, mais du coup oui voilà, c'est un petit peu un coup de pub. Mais en fait, alors vous allez voir que c'est pas n'importe qui cette société, et surtout que c'est quand même assez intéressant. Donc comme je le disais en introduction, c'est vrai que la qualité de l'air c'est l'un des enjeux actuels les plus importants pour la santé et l'environnement. Selon un rapport rédigé par l'Institut de politique énergétique de l'Université de Chicago aux États-Unis et paru fin août, la pollution atmosphérique représente la plus grande menace extérieure pour l'espérance de vie sur Terre, et notamment les particules fines de 2,5 micromètres de diamètre qui sont relâchées par combustion ou formées par réaction chimique à partir des gaz précurseurs présents dans l'atmosphère. Donc ces particules, elles sont visiblement plus de 3 fois plus néfastes pour notre espérance de vie que l'alcool ou la cigarette, qui on le sait sont déjà quand même assez néfastes. Sauf que là, entre guillemets, on ne peut pas... pour lutter en tout cas, il faut être dans un environnement qui est moins pollué, et ça on n'a pas forcément le choix, surtout quand on voit dans le monde de plus en plus de grandes villes, de secteurs urbains se développer et où évidemment énormément de gens vivent dans ces villes. Donc pour faire face à ce problème, cette entreprise dont je parlais au début, Aérophile, qui s'occupe notamment du ballon Generali, donc pour ceux qui se sont déjà rendus à Paris, c'est un ballon qui est situé en fait au niveau du parc André Citroën et qui permet de mesurer la qualité de l'air à Paris, et bien cette entreprise, elle a développé un système innovant de capture de ces particules fines adaptées aux espaces ouverts. Donc ce système est basé sur un procédé de captation, d'ionisation, c'est-à-dire d'extraction d'un électron d'une particule pour la rendre négative, et de filtration électrostatique. Donc là, c'est des plaques collectrices chargées positivement qui récoltent et retiennent les particules négativement chargées. Et donc ce système, il est breveté. Donc ça, ça donne évidemment les grandes lignes. On se doute qu'il y a, quelques secrets industriels. Ce système électrise et stoppe les microparticules qui rentrent et fait ressortir de l'air purifié à 95% de ces particules fines. Alors là, en l'occurrence, quel type de particules fines ? Apparemment, ça fonctionne pour les particules fines donc de 10, 2,5 et 1 micromètre. Et on le disait avant, celles de 2,5 sont visiblement les plus néfastes. Bon, il y en a d'autres évidemment. Donc là, en plus, apparemment, ça en vise plusieurs. Donc, ce qui est aussi avantageux, c'est qu'il n'a pas besoin d'être entretenu, enfin seulement une fois par an en fait, et avec un nettoyage apparemment assez simple. Pas besoin de filtre ou d'autres pièces à changer. Enfin, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est devenu un sujet important, il consomme peu, 400 watts par module, et piège également les particules virales, comme le SARS-CoV-2, ce qui évidemment peut représenter aussi un avantage. Donc le président d'Aérofil, Jérôme Giacomoni, a expliqué comment cette idée novatrice lui était venue. Et il a dit « Nous nous sommes rendus compte que le ballon Generali que nous avions installé quelques années plus tôt à Paris devenait gris, plus vite que les façades des immeubles. C'est en fait dû à une accumulation de particules fines causée par un champ électrostatique qui circule le long du câble, rattachant le ballon au sol. Donc, et ce champ apparemment est à peu près de 100 volts par mètre, donc d'où le fait que ça les attire. Les particules, elles suivent ce champ et s'entassent à la surface du ballon. C'est pour ça que du coup, cette PME, elle a décidé d'inventer donc cet appareil. Elle s'est inspirée en fait de ce phénomène en piégeant les particules à l'intérieur d'un module qu'ils ont appelé le Para-M. L'analyse des taux de pollution sur la ville de Paris montre que les Parisiens sont exposés environ 130 jours par an à un taux de particules fines qui dépasse le seuil journalier fixé par l'OMS. Ce seuil, c'est 15 microgrammes par mètre cube. Donc je vous laisse faire les calculs, 130 jours par an. Et donc dans le cadre d'un partenariat avec l'ADEME, la mairie du 9e arrondissement et cette société, 10 modules Para-M ont été installés dans la cour de l'école de la Victoire. Donc c'est une école qui est située du coup à l'intérieur de Paris, et elle est à proximité de grands axes comme la rue Lafayette et sa cour enclavée par des murs de 12 mètres de haut. C'était des conditions en fait favorables pour que justement il y ait de la pollution de l'air au sein de cet établissement. Il y a eu une première phase de test entre le 15 juin et le 13 août et les résultats ont été enregistrés à l'aide de 6 capteurs, 5 placés dans la cour de l'école et un dernier dans la rue, juste à l'extérieur. Les appareils Para-M sont programmés pour fonctionner uniquement si le taux de particules fines est supérieur à 15 microgrammes par mètre cube, le matin de 6h à 8h, puis de 9h45 à 10h40 et des fois certains après-midi. Les horaires sont précis, de 14h45 à 15h40. Les résultats sont sans appel et conformes à nos simulations numériques, nous explique donc toujours le président de la société. Une baisse de 15 microgrammes par mètre cube de particules fines a été enregistrée dans la cour de cette école lors de l'activation des Para-PM. Donc la maire du 9e arrondissement, Delphine Bourkley, était vraiment stupéfaite des résultats, mais précisait aussi que des améliorations pouvaient encore être faites parce qu'apparemment il y a quand même des nuisances sonores en fait suite au placement de ces appareils, surtout lorsqu'ils démarrent. Donc elle a également demandé un suivi, un rapport par un laboratoire indépendant afin de valider ces résultats. Mais les perspectives, évidemment, quand on a ce genre d'études, c'est évidemment qu'il y ait de nouvelles applications qui attendent ces fameux appareils, qui vont être bientôt installés apparemment dans le métro lyonnais. Et ils ont également été choisis dans le cadre de l'appel d'offres de la Solideo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques, et là vous me voyez venir, pour l'aménagement de la place des athlètes à Saint-Denis à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Et on suivra avec cela avec attention. Merci Carole, il est 12h59 et 58 secondes. Dans 2 secondes, on rend l'antenne. On se retrouve samedi prochain ?
Bien sûr, je serai là avec grand plaisir.
Je suis très content parce que je vous disais au début d'émission qu'on n'avait pas le temps, qu'on n'avait pas beaucoup de sujets. Et en fait, on n'a pas pu tout aborder. Donc la semaine prochaine, on reviendra aussi sur le rejet des eaux contaminées de la centrale de Fukushima qui a fait l'actualité également au Japon.
C'est vrai, oui.
On abordera ce sujet-là. Merci Carole, c'était un plaisir.
Merci Jean-Noël.
Merci à vous, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite sur graphite.net, notamment pour les podcasts et 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Bonne journée.
Prenez
soin de vous. À bientôt.